Itinéraire offert par Garoune, le pouce, le condiment des champions.
Bienvenue à toutes et à tous dans notre podcast Le Temps d'un Café. Vous venez d'écouter un extrait d'Astérix et la Transitalique, réalisé par Ferry Conrad et sorti en 2017, dans lequel le garum est présenté à la façon d'un célèbre soda, sponsor de la compétition à laquelle participe notre héros gaulois. Aujourd'hui, on vous propose une réflexion sur ce mystérieux condiment, argumentée par les réflexions de Thierry Bouvet, pêcheur à Montlouis-sur-Loire, et Yvon Dréano, archéo-zoologue à Saint-Avertin. Bonjour Thierry Bouvet, vous êtes pêcheur et producteur de garum à Montlouis-sur-Loire. Alors, c'est quoi le garum pour vous ?
C'est une sauce lacto-fermentée de poisson. Et pour moi, c'est... Bon, il se trouve que mon père a été en Indochine et qu'il en est revenu avec le souvenir de cette sauce, des odeurs et de l'intelligence de ce que c'était. Ça permettait aux villageois de manger des choses qui avaient du goût, qui avaient du parfum. Et ce que j'en ai retenu, c'était l'intelligence du mets, les saveurs telles que je pouvais les imaginer avec les couleurs dont il parlait, plus que par le goût. Donc c'est beaucoup de correspondance entre des images, des sentiments, des saveurs et un procédé. Après, ça n'empêche pas que ce soit sophistiqué. Mais pour moi, il y a une profondeur de civilisation là-dedans.
Pourquoi avez-vous fait ce choix du garum ?
J'ai été séduit par la Loire, j'y suis retourné à un moment de ma vie où je me disais « mais qu'est-ce que je fais ?» Et à ce titre-là, j'ai interviewé Philippe Boineau. Et puis j'ai pris plaisir à fréquenter le lieu, son activité qui ne m'était pas totalement étrangère dans le sens où je suis géographe de formation et j'ai fait mes études sur les pêches maritimes en Tunisie. Ce qui était important pour moi, c'était d'abord de pêcher de la ressource abondante, à savoir ici en Loire-Moyenne, le silure et le mulet. Et j'avais ce souci de faire en sorte qu'une activité puisse se poursuivre dans le respect de produits de qualité, de ressources disponibles pour ceux qui vont venir et pour lesquels on exploite tout.
De quelle façon aviez-vous prévu votre commercialisation du coup ?
Alors, l'idée, c'était de s'appuyer sur de la vente directe avec les AMAP. Dès lors que j'ai émis l'idée de pêcher en Loire, j'ai eu des soutiens d'AMAP qui m'ont dit « nous, Banco, on peut t'accueillir ». Et donc à partir de là, j'étais en direct avec le public, quelques restaurateurs qui avaient le souci de valoriser la ressource locale et de redonner cette lettre de noblesse à des poissons qui étaient négligés. Je pense à Christophe Hay notamment, qui maintenant dans son restaurant étoilé ne travaille plus que le poisson de Loire. Merci à lui, mais il n'est pas le seul. Je savais que j'avais une activité de pêche avec des produits abondants tels que le silure et les mulets qui n'avaient pas une forte valeur marchande, qui étaient extrêmement fragiles. Et il me fallait, pour pouvoir vivre de cette activité de pêche, limiter au maximum le nombre d'intermédiaires et ajouter le maximum de valeur ajoutée. Alors sous deux formes essentiellement, le garum et le fumé. Une autre forme étant la valorisation sous forme d'acra ou de kefta que je peux valoriser directement sur les festivals. Sachant que dans la ressource, on peut également faire du cuir avec les silures, puisqu'on enlève le plus souvent les filets, qui représentent à peu près un tiers du poids du poisson. Mais il y a quand même les deux tiers qui sont négligés. Alors, des collègues en font autre chose, mais la forme que moi j'ai choisi de faire, c'est cette valorisation par la lactofermentation. À partir de là, effectivement, le marché n'est pas un marché local, c'est un marché directement national, voire international, puisque on est sollicité par l'étranger. Il y a beaucoup de curiosité avant que ça se développe.
Considérez-vous votre travail comme écologique ?
Le but, c'est de donner sens à mon activité, que la nourriture, c'est quand même primordial pour mes semblables aussi, que j'aime que les choses aient du sens et du goût, que j'aime prendre plaisir aussi à ce que je fais et à le partager. Donc, c'est pas tellement écologique, ça me semble humain, on va dire plutôt humaniste. Et par contre, effectivement, c'est en rupture avec des pratiques précédentes.
Et alors, le mode d'emploi pour faire un bon garum ?
Alors, il faut respecter deux choses. Le temps, les produits. Les produits, c'est le poisson et le sel. Et le temps, c'est-à-dire agencer les produits de manière à ce qu'ils se transforment correctement. Ne pas vouloir aller trop vite et ne pas vouloir jouer d'artifice en ajoutant telle ou telle substance qui va activer le processus. Non, non, non. Il faut trouver le bon contenant. Et là, je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Mais surtout, il faut que les produits soient sains et se faire confiance et faire confiance à la nature pour que les phénomènes se passent bien. Et j'ai rarement eu de surprise.
La saveur du garum ?
Alors ça dépend des poissons, ça dépend aussi du taux de filet, de muscles qui restent dans le garum, des assemblages que je peux faire, des périodes de mise en macération, plutôt l'été ou plutôt l'hiver. C'est caractéristique du goût umami. On est là sur une période de caractérisation du goût avec un collègue spécialiste de ces questions-là. Pour qu'on se crée un référentiel de goût, parce que j'ai différents garums, ils ne sont pas les mêmes, et lorsqu'on parle de puissance, de profondeur, etc., je ne fais référence qu'à mes goûts, et j'avoue que c'est franchement limité, quoi.
Finalement, avec quelle recette pourrait-on marier le garum ?
Alors, il faut se faire confiance, il faut oser, il faut y aller. Bon, moi je suis un peu addict, j'en mets partout, j'en ai mis dans une salade. J'ai fait une brandade de silure et silure fumée au garum. J'ai fait une purée de kaki au garum. J'ai fait, alors, c'est pas moi qui ai osé, mais le fromage de chèvre demi-sec avec une goutte de garum. Ça a été essayé pendant une présentation dans un club œnologique. Et effectivement, plus de la majorité des gens ont été convaincus. Vous avez un gosse, il a du mal à prendre de la soupe. Mettez deux gouttes de garum, il va en prendre deux fois. Ça ne va pas parfumer avec un goût de poisson. Ça va exploser les goûts de chacun des aliments que vous allez employer.
Nous allons maintenant accueillir Yvon Dréano, archéozoologue spécialisé dans l'étude des poissons, l'ichtyologie. Alors, c'est quoi le garum en archéologie ?
Ce que l'on retrouve sur les sites archéologiques, ce sont les restes de poissons, les usines de fabrication du garum, également les contenants qui permettent de transporter ce produit. Donc ça peut être aussi bien des amphores, des tonneaux et des usines de salaison. Le garum, c'est un terme générique sur les sauces de poisson. Le principe de fabrication du garum, c'est la décomposition du poisson dans un milieu aseptisé, donc avec du sel, qui permet d'extraire un jus. Donc les chairs de poisson sont fermentées pendant un certain temps pour obtenir un premier jus qui est soutiré, qui peut ensuite être ressaumuré pour avoir un deuxième, un troisième jus et qui donne des sauces différentes. Ce que l'on retrouve généralement dans les usines de fabrication de ces salaisons, ce sont les résidus. Donc c'est tous les restes de poissons qui ont été décomposés. Donc il n'y a plus de chair, il n'y a plus que les os qui sont conservés. Et on ne retrouve pas non plus le sel, parce que depuis 1000, 2000 ans, tout ça a disparu. Donc ce que l'on peut retrouver, c'est sur les parois de ces cuves de fabrication, parce que généralement, elles sont fabriquées dans des cuves, des caramels, qui correspond aux graisses du poisson qui sont dissoutes par les sucs gastriques des poissons qui permet ensuite de faire la fermentation. Il existe garum, mais il y a le liquamen, il y a l'alec et la moria. Ce sont trois termes qui correspondent à des stades de fabrication du garum et avec parfois des différences en fonction de ce qu'on rajoute. Donc c'est un peu comme un vin. Généralement, c'est 2-3 mois de fermentation. Parfois, ça peut être une fabrication qui dure sur 10-12 mois. Et donc là, le taux d'affinage n'est pas le même. Et du coup, le goût doit s'en ressentir. L'alec correspondrait plus à une purée de poisson. Et la muria correspondrait plus à un bouillon.
Et comment c'était distribué alors ?
Alors, c'est surtout à l'Antiquité que se développe la fabrication de garum. Grâce au transport, on peut retracer des grands chemins de circulation. Donc déjà, il y a tout le bassin méditerranéen. Et c'est sur les amphores où on retrouve les inscriptions qu'elles ont contenues du vin, du vinaigre, mais aussi du garum. Avec leur lieu de production, il y a quelques sites majeurs où on a retrouvé de ce type d'amphores. Donc ça peut être sur des épaves, mais aussi sur d'autres sites archéologiques, par exemple Pompéi, où il y a eu plusieurs dizaines d'amphores qui ont été retrouvées, avec des restes de poissons dedans, avec les inscriptions dessus, disant que c'est du garum, telle préparation de garum. La provenance également, ainsi que le nom du fabricant. Grâce à ça, on peut restituer les chemins de circulation. C'est sur toutes les provinces romaines qu'on retrouve ce produit. Donc aussi bien en mer Noire, en la Méditerranée, en mer Baltique, sur la Manche, en Angleterre, en Espagne, au Portugal. Enfin voilà, on le retrouve aussi bien dans les terres que sur les côtes. C'est une denrée très commune et exploitée par toutes les classes de la population, avec des privilèges parfois plus pour l'élite et pour la basse classe, des sauces de moins bonne qualité. Il y a des écrits qui disent qu'un propriétaire d'esclaves a donné de la purée de poisson, donc de la lec, à ses esclaves pour pas qu'ils meurent de faim. Voilà, donc ça peut être également la nourriture principale pour certains.
Et il y avait des espèces privilégiées ?
Généralement, c'est des poissons comme le thon, le maquereau, les chinchards. Donc c'est essentiellement des poissons marins, des poissons gras. Dans les recettes écrites, il est mention justement de fabrication de garum à partir de maquereau, de thon. Donc ça, c'est plus dans le bassin méditerranéen. Et plus sur nos côtes, côte atlantique, c'est généralement des clupéidés, donc des sardines ou des harengs, qui sont utilisés. D'autres hypothèses, en fait, c'est des recettes différentes avec des mollusques, par exemple des huîtres, qui ont été mentionnées sur des écrits également. Par contre, on ne retrouve pas ce genre de restes archéologiques.
Alors, ok pour les recettes, mais le garum à l'époque, c'était plutôt avec du sucré ou du salé ?
A priori, ils le mettaient à toutes les sauces, hein, je pense. Voilà, ça allait aussi bien avec du salé que du sucré, aussi bien avec de l'animal que du végétal. Ça accompagnait quasiment tous leurs plats. Bon, à la période où c'était très commun d'avoir du garum.
Merci pour vos réponses, Monsieur Driano. Nous remercions également la participation de Thierry Bouvet, dont vous pouvez retrouver les produits sur le site garumdetour.fr. On s'aperçoit grâce à vous que le garum est un exemple intelligent d'exploitation des produits de la pêche et d'humilité face aux ressources naturelles. S'il est souvent comparé au nyokman, son équivalent asiatique, le garum entretient une relation particulière avec notre propre culture, dans laquelle il est lui aussi, comme le dit Jacques André dans le livre « L'alimentation et la cuisine de Rome », le condiment obligatoire de toute cuisine un peu raffinée. Cet épisode vous a été présenté par les étudiants du Master Culture et Patrimoine de l'Alimentation de l'Université de Tours, réalisé par Laurine Gobert, Julie Marcos et Sébastien Vega. Les musiques utilisées sont celles de Gérard Calvi, composées en 1967 pour Astérix le Gaulois, et Waiting for Muffin, composées par The Fisherman.